Je ne sais pas si des fois, dans votre vie, il vous arrive aussi d'avoir beaucoup de questions, de pourquoi. Quand vous lisez l'actualité, quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans vos familles, même dans votre propre vie, vous pouvez avoir des fois plus de questions que de réponses. En tout cas, c'est mon cas. Quand on voit des fois certains grands titres dans les journaux, bien on se pose des questions et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on se met à parler à Dieu, à lui dire « mais pourquoi ? Pourquoi ?» Je pense que dans ces moments-là, c'est bon de revenir à la Bible et de voir des exemples de personnes qui sont exactement comme nous aujourd'hui ou qui étaient dans la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On trouve des messages d'actualité dans certains prophètes qui sont très parlantes. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, dans la Bible, c'est un livre à examiner plus près pour voir plus loin. D'accord ? Donc dans la Bible, on va voir un message d'actualité porté par le prophète Habacuc. Alors on va lire trois passages. On pourrait lire les trois chapitres de ce livre, mais je vous laisse le faire chez vous à la maison. Dans Habacuc, vous lisez peut-être pas tous les matins Habacuc. Donc j'en vois qui vont tourner en avant, en arrière les pages de leur Bible. Si vous voulez, c'est page 928. Ça vous aide pas beaucoup. C'est après Nahum. D'accord ? Ça vous dit encore moins. C'est avant Zophonie. Là, c'est déjà plus parlant. Donc Habacuc, on va lire trois passages. Déjà au chapitre 1. Les quatre premiers versets. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Premier passage. Deuxième passage, chapitre 2, versets 1 à 4. Habacuc parle. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Troisième passage dans le chapitre 3. Les versets 16 à 19. Habacuc, là aussi, parle. « J'ai entendu, mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument. Mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. » Les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voilà trois passages, prions ensemble. Seigneur, nous nous plaçons devant toi encore ce matin, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses me parler à travers ta parole, pour que, à l'aide de ta parole, nous puissions voir plus loin dans nos vies, dans notre famille, dans notre société, sur cette terre. Merci Seigneur pour cette parole si précieuse encore pour nous aujourd'hui. Amen. Donc Habacuc, un prophète qui vivait, non pas aujourd'hui, non, d'hier, il y a plus de 2600 ans. Il se trouvait dans des situations, prophète en Israël, à avoir et à apporter un message qui ne semble pas très positif. Alors j'aimerais partager avec vous et voir avec vous en quoi ce message peut nous être utile encore aujourd'hui et comment ça peut peut-être nous aider aujourd'hui. Et ça va aussi pas mal avec certains passages, certains chants qu'on a lus ce matin. Le message d'Habacuc, quand on le lit, quand on lit les quelques chapitres là, on voit que Habacuc est en proie à pas mal de problèmes. Et il se pose bon nombre de questions. Déjà, il nous décrit la situation dans laquelle il est. Hein, les premiers versets, on les a lus. On apprend par ces versets quel est l'entourage d'Habacuc. Tout autour de lui, qu'est-ce qu'il voit ? Tout autour de lui, il voit la violence. Tout autour de lui, il voit l'oppression. Tout autour de lui, il voit l'iniquité. Tout autour de lui, il voit l'injustice. Et même, ça va encore un pas plus loin, puisqu'il dit « la justice n'a point de force ». Donc, la justice même est impuissante devant tout ce mal. Donc, ça va très loin. Tout un cortège de vices, de mal, de violence, et apparemment, il n'y a pas d'amélioration possible. Et la situation d'Habacuc ressemble à plusieurs autres passages qui nous sont décrits par d'autres personnes dans la Bible. Asaph nous décrivait ça, si vous prenez le psaume 73, le verset 12, là, il nous est dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Ou encore dans Jérémie 12, Jérémie s'étonne, il a regardé autour de lui et il questionne Dieu, il est devant Dieu aussi avec beaucoup de questions et pas de réponse ou peu de réponse. Il nous dit, Jérémie 12, verset 1, « Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?» Il est là et il observe. La société autour d'Asaph, autour de Jérémie, autour d'Habacuc, semble être une société qui d'un côté prospère, mais qui d'un autre côté n'est remplie que de violence, d'injustice, de choses tournées vers le mal. Ça fait penser aussi au jour de Noé, hein, dans Genèse 6, toutes les pensées des hommes étaient tournées vers le mal. Et le comble de tout, tout comme c'est souligné par Asaph ou par Jérémie, Habacuc nous dit là, au verset 4 du premier chapitre, « Le méchant triomphe du juste. » Si encore le juste, celui qui veut marcher bien, trouvait sa place, mais non. « Le méchant triomphe du juste. » Au chapitre 2, verset 13, là, il dit, fin du verset 13, « Le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. » Le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Alors, il y a deux questions qui viennent à l'esprit d'Habacuc, et même à l'esprit d'autres personnes telles qu'Asaph, telles que Jérémie. Pourquoi tout ce mal? Pourquoi toute cette injustice? Et puis, la deuxième qui suit directement, à quoi bon être juste? Ce sont les deux choses qu'on peut se poser. Et ça peut même aller jusqu'au point où on se dit, enfin, Asaph allait même à se dire, pardon, c'est donc en vain, au verset 13 du psaume 73, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il se questionne là. Pourquoi, entre guillemets, s'embêter à vivre justement, si finalement ceux qui à côté font le mal dominent sur les autres? Et alors ça nous amène, ou ça amène des gens comme Habacuc, comme Asaph à s'étonner, à s'interroger certainement et à se demander « Mais que devient la justice divine dans un monde qui est sans dessus-dessous ? Dans un monde qui ne répond plus, qui ne veut plus de Dieu ?» Alors, on peut se poser la même question aujourd'hui. On va voir tout à l'heure certaines réponses. Pour Habacuc, si on lit bien, il reçoit une réponse de Dieu. Il reçoit une réponse. Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, mais je vais intervenir. Et la réponse qu'Habacuc va apporter, la réponse que l'Éternel va apporter à Habacuc, lui pose un autre problème. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu va faire venir un jugement sur le peuple qui est rempli de violence et de mal, mais il va faire venir un jugement par une nation étrangère, par des Chaldéens. Vous pouvez le lire hein, dans ces chapitres-là, la réponse que Dieu donne à Habacuc, c'est une nation étrangère, un peuple furibond, un peuple qui certainement ne marche pas avec Dieu, qui va venir, qui va détruire, piller le pays et envahir Israël. Alors là, c'est quand même fort. Dieu va juger son peuple par une nation païenne. Voilà la réponse de Dieu à Habacuc. Et c'est certainement pas, je pense, la réponse que le prophète Habacuc attendait. Peut-être qu'Habacuc, lui, il avait déjà sa petite idée. Voilà, Dieu, il devrait répondre directement. Il faudrait qu'il intervienne directement, qu'il rétablisse l'ordre, qu'il établisse la justice. Comment est-ce qu'un Dieu, est-ce que Dieu peut utiliser une nation plus cruelle, plus injuste qu'Israël, pour venir maintenant juger Israël? Pourquoi intervenir de cette façon tout à fait déplacée, ou qui semble déplacée, aux yeux d'Habacuc? Alors ça, c'était son deuxième problème. Son premier problème, c'était la situation dans laquelle il vivait. Le deuxième gros problème d'Habacuc, c'était la réponse que Dieu lui donne. Ça ne s'arrête pas là. Si vous lisez la suite d'Habacuc, troisième chapitre, ça va plus loin. Un autre gros problème d'Habacuc, c'est l'avenir. L'avenir. On l'a lu tout à l'heure, au chapitre 3, au verset 2, Habacuc dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Au verset 16, Habacuc nous décrit l'avenir que l'Éternel lui a donné. Et l'avenir semble tout à fait compromis. Un avenir qui est fait sans animaux, sans nourriture, tous ces produits qui enrichissaient Israël à l'époque, éliminés, n'existent plus. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, l'olivier manquera, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Qu'est-ce qu'il va rester? Il n'y a plus grand-chose. Plus grand-chose. Et donc, toute cette situation va appeler ou amener le prophète à s'interroger. Et il va poser trois pourquoi à Dieu. Dans le chapitre 1, au verset 3, là, il dit à Dieu, « Mais pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?» Au verset un petit peu plus loin, au verset 3, il y a deux fois. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? D'accord? Au début du verset 3. Donc, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Deuxième pourquoi, dans le même verset, pourquoi l'oppression et la violence? Et puis, ensuite, plus loin, il nous... J'ai dû noter mal un verset, le verset 5. Il y a encore un troisième pourquoi, où il s'étonne pourquoi, finalement, l'Éternel va faire venir toute cette nation et régler les problèmes de cette façon-là. Et donc, avant de voir un petit peu ou de relever les réponses de Dieu et voir comment ça s'inclut quand même dans un plan, dans le plan de Dieu pour l'histoire de notre terre, eh bien, regardons un petit peu l'analogie entre ce que vivait Habacuc à son époque et puis ce qui se passe aujourd'hui, entre les jours, l'époque d'Habacuc et la nôtre. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, de vous raconter bien longtemps ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit, vous ouvrez la radio, vous allumez la télévision, vous prenez les journaux et vous lisez, tout simplement. Vous écoutez. Qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, la une des journaux, des nouvelles, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est fait en grande partie de violence, de guerre, de vol, d'impudicité, de meurtre, d'injustice en tout genre, etc. Et comme dans Habacuc, on a l'impression bien souvent, que ce soit au niveau international, national, au niveau local, ou même des fois dans nos vies, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, eh bien que le méchant triomphe du juste. On a l'impression que l'injustice règne. On a l'impression qu'on se trouve aujourd'hui avoir affaire à des principes qui régissent ce monde, qui sont exactement les mêmes que ceux qui étaient présents et qui régissaient le monde à l'époque d'Habacuc. Pas beaucoup de changements de ce côté-là. Et comme Habacuc, les questions peuvent défiler dans nos têtes. Pourquoi tant de péchés dans ce monde ? Habacuc demandait, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ? Puisque Dieu existe, mais pourquoi n'agit-il pas tout de suite ? Nous, on aurait un schéma bien fait. Hein. Dieu devrait intervenir, tac, 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 résoudre tel problème, et si, on a la solution. Non ? Chacun a sa solution, au vu de sa propre perspective, de ce qu'il pense être bien. On aurait tout de suite des propositions à faire à Dieu, comment régler tel ou tel problème. Ça, j'en doute pas. Donc, pourquoi ? Et puis même, certains vont même jusqu'à dire, mais et certains autour de nous disent ça, mais si Dieu existait, mais il n'y aurait pas tout cela. Habacuc a certainement dû l'entendre aussi de son temps. Pour les chrétiens même, on peut se dire, mais pourquoi telle ou telle épreuve ? Pourquoi ces difficultés ? Et Dieu va apporter une réponse. Dieu va apporter une réponse. Tout comme au moment d'Habacuc, il y a une réponse aussi pour aujourd'hui. Elle est aussi dans la Bible. Matthieu 24, 35 nous dit « Le ciel et la terre passeront. » Le ciel et la terre passeront. Dans Jean 12, verset 31, il nous est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Donc il y aura une réponse. Est-ce que vous vous êtes interrogé aussi sur la façon dont l'avenir était décrit pour nous aujourd'hui et dans un futur proche? Tout comme Habacuc, on peut se poser des questions. Pourquoi ? La Bible ne nous promet pas le paradis sur la terre. D'accord ? Sinon, c'est que vous avez mal lu votre Bible. Moi, je le vois nulle part. La Bible, au contraire, nous dit que on va avoir des tribulations dans ce monde. Jésus l'a annoncé lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas une vie de facilité. Ce n'est pas une vie où on se tourne les pouces tous les jours, non ? Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans ce monde. Et si on regarde l'histoire, les héros de la foi dans Hébreux 11, eh bien on voit très bien ce qui attendait nos pères dans la foi, nous attendent aussi aujourd'hui. Mais Dieu a une réponse. Dieu a une réponse, c'est que un jour le jugement viendra. Mais il donne une autre réponse à Habacuc. Il donne une autre réponse en une petite phrase. Le juste vivra par la foi. Alors, bonne nouvelle, le juste vivra. Est-ce qu'elle est si bonne que ça, cette nouvelle ? Ben oui, le juste vivra. Oui, mais pour vivre, si vous compreniez bien la phrase, il faut être juste. Qui est juste ? Si on faisait sortir tous les non-justes de la salle ce matin, on serait tous dehors. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. On a tous péché, moi le premier, tous. 1 Corinthiens 6, 9 et 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Nous faisons tous partie de cette catégorie-là. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le juste vivra. On est mal barré. Le juste vivra par la foi. Si ça n'en tenait qu'à notre vie, il n'y aurait pas d'espoir pour aucun d'entre nous ce matin. Aucun espoir. Par contre, si on se base sur autre chose que notre vie, le juste vivra par la foi, alors là, ça change. Pourquoi ? Eh bien, lisons plus loin. Le verset qu'on a commencé dans Romains 6 tout à l'heure, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc c'est bien ça, le juste vivra par la foi. Sinon, nous venons à Jésus-Christ, si nous l'acceptons dans notre vie, nous avons cette vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 11, juste après ce que nous avons lu tout à l'heure, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et c'est là ce que vous étiez, nous dit Paul, « Mais vous avez été lavelés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voilà, le juste vivra par la foi. Si nous nous appuyons sur nos capacités, notre vie, on ne pourra jamais remplir ces critères de justice pour vivre. Par contre, si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous racheter, comme on s'est rappelé tout à l'heure, alors là, nous avons une espérance vivante qui ne s'arrêtera pas avec notre passage quelques pieds sous terre ici-bas, mais qui se prolonge au-delà de notre mort ici-bas. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et alors, on va pouvoir aller un pas plus loin, tout comme Habacuc ensuite. Luc 10, verset 20, il nous est dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Pour avoir alors une autre espérance, une autre assurance. On aura une autre perspective pour aborder la vie ici-bas. Une autre perspective. Une autre perspective que celle que nous nous laissons bien souvent dicter par les médias, par ce que nous vivons, par notre expérience, par notre vie. On se laisse dicter un petit peu notre façon de voir les choses. Au lieu d'être proactif, on subit. On subit tout notre entourage. On subit notre société. Et là, Habacuc, avec l'aide de Dieu, avec cette petite phrase « Le juste vivra par la foi », il ne subit pas. Il est proactif. Il avance. Il veut. Il dit ensuite « Je veux me réjouir ». Il sait que ça ne va pas être facile tous les jours. Non. Mais il ne veut pas se plaindre. Il ne veut plus se lamenter. Il ne veut pas étaler des pages et des pages de pourquoi, pourquoi, pourquoi. Non, il veut aller plus loin. Il veut vraiment se réjouir en l'éternel. Et donc, Habacuc commence à réaliser qu'il n'a pas besoin de comprendre pour croire et suivre le Seigneur. Il n'a pas besoin de ça. Il peut simplement aller de l'avant. Pour nous, c'est la même chose. Face au monde actuel, face à l'avenir, face à notre situation personnelle, professionnelle, on ne comprend peut-être pas le chemin de Dieu. Habacuc ne le comprenait pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend peut-être pas ce que nous devons vivre, ce que nous devons subir, les difficultés, les soucis, la perte d'un être cher ou autre chose. Est-ce pour autant que Dieu nous délaisse? Non. Ésaïe 55 nous le redit très bien, verset 8. « Mes pensées, nous dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc on a besoin, tout comme Habacuc, qu'on a besoin d'une autre perspective pour voir notre situation ici-bas, aujourd'hui, pour voir notre avenir. On a besoin de voir la perspective que Dieu est aux commandes. On nous l'a rappelé aujourd'hui, ce matin. On a lu tout à l'heure Colossiens 1, verset 16-17, hein. « En Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Dieu est aux commandes de l'univers. Ne l'oublions pas. C'est ça qu'il nous rappelle par sa parole, c'est ça qu'il nous rappelle par Habacuc. Josué 2, verset 11, on a lu ça aussi tout à l'heure, « Car c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est pour ça que Habacuc, finalement, peut aller de l'avant. Alors, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je pense que ces passages d'Habacuc, ces quelques chapitres d'Habacuc, nous aident à comprendre vraiment que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sous le contrôle de Dieu. Même si on ne le comprend pas des fois. Mais tout ce qui se passe, c'est sous le contrôle de Dieu. Au moment d'Habacuc, les Chaldéens envoyés en Israël pour piller le pays, c'était sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôle l'actualité d'aujourd'hui. Première chose, Dieu contrôle l'actualité d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que l'actualité d'aujourd'hui suit le plan de Dieu. Dieu a un plan pour notre vie, donc l'actualité, que ce soit dans nos vies, dans nos familles, dans notre société, même dans notre pays, Dieu a un plan. Son plan n'est pas de faire un État français, de construire une Europe à 23, 26, 35, 42 nations. Non. Son plan, le plan de Dieu, est de bâtir son Église. Le plan de Dieu, c'est de sauver des âmes. Nous, notre perspective qu'on a du monde actuel est dictée par les nouvelles qu'on écoute, l'actualité. Donc on a une certaine vision, mais qui n'est certainement pas celle que Dieu a. Dieu veut construire son Église. Dieu veut que des hommes et des femmes le trouvent encore, se tournent vers lui, trouvent des réponses pour leur vie ici-bas, trouvent des réponses pour la vie éternelle, deviennent des enfants de Dieu. Donc, l'actualité suit le plan de Dieu, encore aujourd'hui. La troisième chose, c'est que l'actualité suit également l'agenda de Dieu. Ce n'est pas tel et tel puissant de ce monde qui va dicter le calendrier à Dieu. Non. Dieu a un calendrier qui est établi, que nous ne connaissons pas, mais qui est là, qui est appliqué et qui sera appliqué. Et donc, quand Jésus-Christ nous dit dans sa parole qu'il va revenir, ce calendrier-là aussi va s'appliquer. Il va s'appliquer. Donc, troisième chose, l'actualité d'aujourd'hui suit aussi le calendrier de Dieu. Et puis, la plus importante des choses, c'est que l'actualité, elle est directement liée au royaume de Dieu. Tout tourne pour que finalement le royaume de Dieu puisse s'accomplir. Et ça, on pourrait maintenant commencer à entrer dans certains détails au niveau de l'actualité d'aujourd'hui, mais si on se met à étudier les événements d'aujourd'hui, non plus avec une perspective enfermée dans notre coin, mais à voir ça au regard de la Bible, de certaines prophéties, eh bien on commence à voir les grandes lignes, comment Dieu conduit certaines choses pour que son plan s'accomplisse selon le royaume de Dieu qui va venir. Son royaume va venir. Ce ne sont pas les puissants de ce monde qui vont décider de l'avenir de la terre. C'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui est aux commandes. Alors des fois, on ne comprend pas. Des fois, on se trouve dans la situation dans laquelle était Pierre quand se trouvait avec le Seigneur et les autres disciples, et Jésus se met à lui laver les pieds. Et Pierre lui dit, mais Seigneur, que fais-tu ? Et le Seigneur lui répond, mais dans Jean 13, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Dans la vie de Pierre, cet épisode, il ne comprenait pas pourquoi Jésus travaillait de cette façon-là dans sa vie. Et Jésus lui dit, « Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Comme quoi, Pierre, tu n'as pas besoin de comprendre ça tout de suite. Mais tu vas voir, un jour, ça va faire « Ah !» Mais bien sûr. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Il y a tout plein de choses qui se passent dans nos vies. Il y a certains jours où on arrive au bout de la journée, on se dit, alors là, Seigneur, si tu es à l'œuvre dans ma vie, ben là, j'y comprends plus rien. Non ? Et puis d'autres jours où ça semble formidable. Eh bien là, on peut se rappeler, on peut revenir à ce que Jésus disait à Pierre, mais ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Retenons simplement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Retenons que finalement, Dieu est aux commandes encore de l'univers. Vous savez, si Dieu a créé ce monde, c'est qu'il sait exactement comment ça fonctionne. Il n'a même pas besoin d'avoir son bac, de faire de longues études. Lui, il n'y a aucun secret en physique, chimie, maths, et j'en passe, des matières, biologie même, j'allais oublier quand même, l'informatique. maîtrise. Il est aux commandes. C'est lui qui sait. Le problème que l'on a en tant qu'être humain, et que j'ai en tant qu'être humain, c'est bien souvent que, comme Habacuc, ma première réaction est de porter un jugement sur la base de mes faibles connaissances, sur la base de ce que je vois. Je me dis, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et puis, souvent, j'aurais des solutions toutes prêtes, toutes faites. On serait prêt à donner un plan d'action à Dieu, tiens, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, tu vois, là. Et puis on attend que ça se passe, et puis ça ne se passe pas comme ça. On se dit, mais quand même. Puis on va jusqu'au point à se demander, mais que fait Dieu? Mais non, c'est pas comme ça. Ayons la simplicité de reconnaître que nous sommes incapables de porter un jugement sur les actes de Dieu. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui. Il a la vision du passé, du présent, du futur en un seul regard. Nous, on n'a qu'un petit bout de notre existence, et souvent, on a encore moyen, ou de façon volontaire, très souvent, ou consciente, d'oublier des bouts de notre vie, ou des bouts d'informations, quand ça nous arrange, pour tirer un jugement ou lister des actions qui pourraient plutôt nous arranger. Donc, on n'a pas assez de données. On a un point de vue qui est brouillé par des intérêts personnels. Donc, on ne peut pas vraiment dicter à Dieu ce qu'il devrait faire, à la fois dans nos vies, dans ceux qui nous entourent. Mais on peut savoir que si lui nous a créés, s'il nous a placés sur cette terre, c'est parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il l'a montré en envoyant son Fils pour résoudre cette question du péché. Et donc, il veut encore le développer dans nos vies jour après jour. Alors, l'attitude que nous devrions avoir, c'est comme Habacuc, la volonté de nous réjouir. De nous réjouir dans notre Seigneur qui nous a rachetés, qui nous a justifiés. Et puis, on peut aller voir aussi ce que disait Job. Job, à son époque, il était face à aussi beaucoup d'interrogations. Elle disait au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ce n'est pas les puissants du temps de Job qui régneront sur la terre, non, c'est son Rédempteur. Donc nous pouvons aujourd'hui affirmer la même chose que ce que Job disait à cette époque. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ou comme Habacuc disait, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Voilà ce qui peut vraiment nous donner de l'énergie, de la motivation pour aller de l'avant. Dieu a et aura le dernier mot de l'histoire. Donc, donnons-lui aussi le dernier mot dans notre vie. Dieu, en conclusion, Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper, qu'on puisse le retenir. Dieu, par sa parole, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et ça doit pouvoir nous encourager jour après jour, le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, qu'on puisse reconnaître, accepter, des fois même difficilement, que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Amen.